Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Les députés nationaux et les sénateurs ont repris officiellement les chemins de l'hémicycle ce lundi 16 mars au Palais du Peuple à Kinshasa, après 3 mois de vacances parlementaires. La session ordinaire de mars s'ouvre dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité à l'est du pays. Plusieurs territoires du nord et du sud Kivu restent occupés par la rébellion de la FCM-23, soutenue par les Rwandais, tandis que les rebelles des EDF poursuivent leurs attaques dans les régions de Beni-Lubero, au nord Kivu et en Ituri. Cette session est aussi marquée par plusieurs dossiers politiques, notamment la question relative à la révision ou au changement de la Constitution, mais également à des préoccupations socio-économiques majeures. Autre dossier attendu au cours de cette session, l'examen des projets des lois portant ratification de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis. Ces textes ont déjà été déposés au Parlement par la Première ministre Judith Suminwa. Au vu des réalités du terrain, quelles devraient être les priorités de la session de mars? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission ici au studio Émile Assani, le député national élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Il est également avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Bonsoir honorable Émile Assani.
Bonsoir cher Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi, à tous les maniémés qui me suivent en ce moment.
Et aussi
à mon co-débatteur,
voilà.
Ou à mes co-débatteurs.
Et aussi ici au studio, Trésor Kibangula, il est analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Bonsoir Trésor Kibangula.
Bonsoir cher Guy et bonsoir monsieur le député.
Merci, bonsoir.
En ligne, Augustin Mulumba, il est député national et cadre de l'UDPS. Il est premier vice-président de la commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale. Bonsoir honorable Augustin Mulumba.
Bonsoir Kimaté, bonsoir à tous les députés de la radio Capri, bonsoir à tous mes co-débatteurs.
Merci une fois de plus, bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
La session ordinaire de mars s'est ouverte ce lundi à Kinshasa, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dans leur discours, les présidents des deux chambres du Parlement ont appelé à l'unité et à la mobilisation de tous les Congolais face aux défis sécuritaires, politiques et sociaux auxquels le pays est confronté. Les détails avec Grace Amzati.
Sur le plan sécuritaire, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bogi, cite l'occupation de certains territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu par la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, la poursuite des attaques des rebelles ADF dans les territoires de Beni et Lubero au Nord Kivu, ainsi que dans une partie de l'Ituri. Il mentionne également l'activisme de la milice Mobondo dans l'espace Bandundu et la montée de la criminalité urbaine à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. S'agissant des accords récemment conclus par le gouvernement, notamment l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis, Aimé Bogi Sangara assure que l'Assemblée nationale examinera ces textes dans l'intérêt supérieur de la nation, tout en réaffirmant l'accompagnement de la Chambre basse dans leur mise en œuvre. Concernant la perspective d'un dialogue national, il souligne la nécessité de l'envisager dans le respect du cadre institutionnel et dans l'intérêt du pays. De son côté, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, rappelle que la Chambre haute reste engagée à adopter les lois nécessaires et à exercer pleinement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale afin de contribuer à la stabilité des institutions et à la construction d'une société plus juste. Depuis le Palais du Peuple, Grâce Amzati, Radio Capi.
Merci à vous, Grâce Amzati. Augustin Mulumba, on commence avec vous. Vous êtes député national et cadre de l'UDPS. Vous êtes premier vice-président de la commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale. Vous venez des vacances parlementaires. Au vu de ce que vous avez constaté sur le terrain, quelles devraient être, selon vous, les priorités, n'est-ce pas, de cette session de mars?
Merci beaucoup, Kimat, pour la question que vous venez de proposer. En tant que député, vice-président de la commission sur l'évaluation et aussi président du comité spécialisé de l'Omanie, je voudrais me dire, moi, personnellement, s'il était impérieux de nous demander quel sera l'objectif de cette session de mars, ça sera essentiellement tablé sur la sécurité de notre pays, dont certaines provinces sont sous l'emprise de l'armée rwandaise. Il faut le dire tout haut que la session de mars, c'est une session ordinaire, comme on venait à peine de le dire, il y a des propositions, des projets de loi et des matières spécifiques que le gouvernement peut déposer au sein des deux chambres. Mais c'est une session tout à fait normale, comme on peut le constater. Nous voudrions que le gouvernement table aussi pour les sociétés de notre peuple, et plus particulièrement sur la paix et la sécurité. La sécurité dans la province, une province de Kinshasa, et surtout dans les deux provinces sous l'emprise de l'armée rwandaise. Voilà ce qui a été notre objectif, ce qui peut être le mobile de cette session, et ce que nous prévoyons nous-mêmes en tant que députés, que plusieurs questions soient débattues sur la sécurité, parce qu'on ne peut pas parler de la paix sans sécurité, on ne peut pas parler du développement sans sécurité, on ne peut pas parler du pouvoir sans sécurité. Donc, vous avez appris comme moi que dans les territoires de Mambasa, il y a les ADF qui ont tué. À Goma, il y a l'armée rwandaise qui a tué à base de ses drones. Partout ailleurs, ils passent, sont en train de tuer. On a découvert même dans une maison, il y a 15 personnes qui ont été tuées. Tout ça s'entre dans la sécurité nationale de notre pays. Dans ce moment très crucial de la géopolitique, nous voudrions beaucoup privilégier la sécurité et le développement.
Voilà, la sécurité et le développement, la sécurité et la paix. La question qui touche aux infrastructures routières est une réalité, n'est-ce pas, commune à toutes les provinces. Vous n'avez pas constaté ces problèmes dans votre province, la Lomami?
On a constaté d'ailleurs, avant que je ne parte en vacances parlementaires, j'avais discuté avec la première ministre du gouvernement, pour lui faire part de l'état actuel de notre province de Lomami, que je ne dis pas une province abandonnée, mais qui est mise sous exergue. Et la première ministre a promis quelque chose. C'est vrai que le pays est sous l'emprise des M23, les quelques provinces. La plus grande part du budget part, on affecte beaucoup, si vous estimez, depuis 2021, que la guerre a commencé, à la fin de 2022, on a plus dépensé de 5 milliards qui pouvaient aider même le pays à se reconstruire. Mais le pouvoir a la volonté, le président de la République, le gouvernement a la volonté de faire tout pour qu'il y ait connectivité de toutes les provinces, qu'il y ait connectivité de tous les territoires.
Et ce débat sur la révision ou les changements de la Constitution qui refait surface, vous ne pensez pas que ce soit ça aussi l'une des priorités de cette session?
Mais moi, je me dis que le débat sur la révision, c'est un débat constitutionnel, c'est un débat démocratique. Quand vous lisez bien la Constitution à son article 218, elle prévoit les mécanismes de sa révision. Personne ne peut douter de ça. S'il y a quelqu'un qui s'insiste contre ça, c'est que lui-même est en train de violer la Constitution. Aussi longtemps qu'il faut le savoir et qu'on peut le prétendre, nous qui sommes du pouvoir, ce n'est pas une question liée à l'ordre du jour. Mais nous laissons les droits fondamentaux consacrés par cette Constitution, les droits à la parole, les droits à la pensée, les droits à l'expression, que les Congolais s'expriment eux-mêmes. Si les Congolais veulent qu'on modifie la Constitution, qui sommes-nous pour les empêcher? Si les Congolais voudraient aujourd'hui qu'on change la Constitution, qui sommes-nous pour les empêcher? C'est vrai que ce n'est pas parce que les gens ont toujours prêté l'intention au chef de l'État. Quand les gens s'expriment conformément aux dispositions constitutionnelles, certains parlent de la modification, certains parlent du changement, ils pensent que c'est l'UDPS, c'est le parti, c'est le président de la République. Non. Ça, ce sont les droits fondamentaux consacrés par la même Constitution. Vous lirez bien l'article 218, il parle de la révision, la Constitution elle-même parle de sa propre révision. Nulle part ne parle pas du changement, vous allez lire 229 articles. On ne sait pas dire aujourd'hui, le président fait le discours solennel, il n'a pas parlé du changement de la Constitution comme un point à l'ordre du jour. Mais si il y a bien que les Congolais se parlent, les Congolais parlent de la modification du changement, je me dis que c'est un débat démocratique, c'est un débat constitutionnel. Personne n'a le droit d'interdire à ces Congolais qui veulent réfléchir pour le changement, la modification. À moins qu'il y ait le contraire.
Voilà, vous avez parlé de la paix et sécurité qui devrait être parmi les priorités de cette session de mars. Quel devrait être justement l'apport de vous parlementaires dans la démarche visant à régler définitivement cette crise de l'Est du pays?
Nous voulions d'abord auditer ce qu'il y a eu comme financement, parce que cette session, c'est une session consacrée essentiellement au sous-contrôle parlementaire sur la gestion du gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on a dépensé? Et aussi bien ratifier les accords qui ont été signés par le gouvernement et le président de la République, les accords entre le Rwanda, les accords entre les États-Unis d'Amérique, et aussi foncer savoir qu'est-ce qu'il faut essentiellement pour notre population de l'Est trouve la paix, et l'ensemble du pays trouve la paix. C'est ça essentiel. Parce qu'on ne peut pas parler aussi des élections, on ne peut pas parler du changement, on ne peut pas parler de ça s'il n'y a pas la paix. Nous voudrions parler de la paix, à la place de la paix, à côté de la paix, nous voudrons ce que les gens réfléchissent, parce que s'il faut parler de la paix, il faut que les armes se taisent. S'il faut parler de la paix, il faut que les gens mangent. Voilà un peu la quintessence de ce qui va être comme débat primordial pendant cette session de mars.
Merci Emile Assani, vous êtes député national élu de Kindu sur la liste des LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa Matete. Quelles sont les réalités que vous avez constatées sur le terrain pendant vos vacances parlementaires et qui devraient, n'est-ce pas, constituer les priorités de cette session de mars qui vient de commencer?
Merci beaucoup Monsieur Guy Maté. Je salue l'intervention ô combien authentique et honnête de mon co-débatteur, l'honorable Moulumba,
Augustin Moulumba.
À l'entendre parler, il a peint un tableau sombre. Et ça, je salue ce courage, cette franchise, cette honnêteté. C'est quelqu'un du pouvoir qui vous dit rien ne va. L'insécurité persistante. Parlant de sa province, il a dit qu'il ne veut pas emprunter le concept abandon, mais au moins sa province en réalité est abandonnée. La province du Maniema n'est pas une province qui se trouve au ciel. Nous vivons les mêmes réalités. Mais chez nous, c'est encore plus pire. Mieux, je dirais, c'est vraiment tous les signaux sont au rouge. Monsieur Guy Maté, le président de la République est à son deuxième mandat. Lorsque vous comptabilisez ces deux mandats, je crois qu'il est à sa septième année de pouvoir, si pas huitième. Mais sur terrain, au Maniema, aucune réalisation. Zéro, zéro réalisation. Zéro, je vous dis, zéro. Bien au contraire, les quelques réalisations faites par son prédécesseur, tout est en train d'être délabré, détruit. Aucune route. Par rapport aux infrastructures, aucune route. Lorsque vous prenez la route, la nationale numéro 31, on quitte Kindu pour aller à Kasongo, ça vous amène jusque dans la province du Sud Kivu, ça vous amène aussi dans les Kasaï, dans les Grands Katanga, ainsi de suite, rien n'est fait.
Et donc la question des routes doit être l'une des priorités de cette
À situation. L'époque, on pouvait quitter Kindu à 6 heures, et quelques heures plus tard, on pouvait se retrouver dans les chefs-lieux du territoire de Kasongo. À ce jour, on ne peut plus pratiquer cette route-là. La question de l'insécurité, ça c'est le vécu quotidien. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'énergie. Lorsque vous prenez les infrastructures urbaines, c'est-à-dire dans la ville de Kindu, vous ne pouvez pas vous déplacer d'un point à un autre. Quitter la ville pour arriver, par exemple, à l'université officielle, l'université de Kindu, c'est impossible. Et c'est là, malgré l'instauration d'une taxe conventionnelle instaurée par les gouvernements provinciaux. Les gouvernements provinciaux prélèvent l'argent auprès des motards, mes frères motards, ils prélèvent l'argent aux exploitants miniers pour réfectionner les routes urbaines. Rien, alors rien n'est fait.
Donc la question des routes, la question qui touche
l'insécurité,
la déserte sociale
en général,
le courant électrique.
Rien.
Voilà.
Et
l'accessibilité aux soins de santé.
Au-delà de ça, oui. La population du Maniema, pour elle, se disait, en tout cas, c'était une province en dehors de la RDC. C'est ça le sentiment qu'a la population du Maniema en général, et c'est de la ville de Kindu. Plus grave encore, Monsieur Guy Maté, il n'y a pas longtemps, vous savez que dans notre province, nous avons l'une des meilleures universités du pays, si pas du continent.
c'est l'université Mapone. Nous avons l'un...
Qui appartient à Matata Ponyo.
Non, attention, l'hôpital n'appartient pas à M. Matata Ponyo. Et c'est là la grave erreur commise notamment par ceux qui nous gèrent actuellement. Nous avons, disais-je, l'un parmi les meilleurs hôpitaux du pays, les meilleurs hôpitaux de l'Afrique, l'une parmi les meilleures universités du pays et pourquoi pas de l'Afrique, l'université Mapone, l'hôpital qu'on appelle le centre hospitalier de Lumbulumbu et l'école primaire. Ce n'est un secret de Polichinelle, mais c'est Matata Ponyo par une justice expéditive a été condamné, ça tout le monde a suivi, par la Cour constitutionnelle dans son arrêt sous le RP0002. On l'a condamné notamment à la confiscation de certains de ses biens. Mais curieusement et contre toute attente, et c'est là l'inquiétude de la population d'Imanima, au lieu de poursuivre les biens de M. Matata Ponyo, mais ici on va poursuivre les biens de la fondation qui porte son nom. Et vous le savez, en droit, et même du point de vue scientifique en général, il y a une différence entre une personne morale et une personne physique. Aujourd'hui, Maman Denise Nyakeru a une fondation. La fondation a ses biens propres, autant Maman Denise Nyakeru a ses biens. Lorsque Maman Denise, par exemple, je ne le souhaite pas, c'est juste un exemple, elle est condamnée, on ne peut pas saisir ou on ne peut pas poursuivre les biens de la fondation Denise Nyakeru parce qu'on a condamné Maman Denise Nyakeru. Et c'est ce qu'on a fait. Et à ce jour, comme je vous dis, on a paralysé. C'est la paralysie. Parce que lorsque vous arrivez à l'université Mapone, nous avons à l'époque les Maniémiens, les gens qui étaient la province du Maniéma pour aller, ceux qui ont de l'argent, les familles nantis, venaient à Kinshasa, d'autres à Lubumbashi, d'autres dans le sud Kivu, province de la Tchopo actuellement, et d'autres dans le nord Kivu. Mais depuis la construction de cette université, vous pouvez vérifier, il y a des gens qui quittent toutes les provinces du pays. Kinshasa, ils sont à l'université Mapone. Nord Kivu, Sud Kivu, un peu partout.
Et donc, vous avez ce problème-là pendant cette session.
Et bien entendu. Et à ce jour, on a gelé les comptes. On gèle les comptes, le procureur général près la Cour constitutionnelle, poursuivant l'exécution contre M. Matata. Il laisse M. Matata, mais il poursuit les biens de la Fondation Matata, qui n'ont rien à voir avec M. Matata. Conséquence, on a paralysé l'enseignement. L'université ne sait plus fonctionner. Ces enfants-là, comme vous le savez, les droits à l'éducation, c'est un droit sacro-saint. C'est garanti dans la Constitution, ainsi que dans différents textes internationaux, les traités et accords internationaux. Les fonctionnaires, droit à la vie, ils sont privés de leur salaire. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Ceux qui suivent les patients, qui suivent les soins de santé là-bas, paralysés. Et M. Matata n'a pas, sa famille n'est pas traitée là-bas. C'est des Congolais. Et parmi ces gens, ceux qui étudient à l'université Mapone, ceux qui étudient à l'école primaire Mapone, ceux qui étudient et qui prennent soin à l'hôpital Mapone, il n'y a pas que les gens de l'opposition. Il y a aussi les gens de la majorité.
Et donc,
ceux
la question,
qui sont au pouvoir. Et que donc,
sera soulevé,
vous allez comprendre que la population d'Imanima a les sentiments. Je ne dirais pas d'abandon, mais un sentiment d'un enfant mal aimé. Alors que le président de la République, conformément à la Constitution, c'est le père de la nation. Il ne devra pas favoriser certaines provinces au détriment des autres. Déjà, il est à la 8e ou 7e année de son mandat, il n'a rien réalisé au Maniema. Alors autant mieux laisser le peu que son prédécesseur a réalisé, autant mieux nous laisser consolider ces acquis-là que de les détruire.
Pendant que vous étiez en vacances parlementaires, cette question de la révision ou du changement de la Constitution a été de nouveau relevée par l'IDPS. Vous ne pensez pas que ce soit aussi l'une des questions prioritaires pendant cette session?
Il n'y a aucune priorité. D'abord, en ce qui concerne les changements, c'est là où j'ai salué la pertinence de l'intervention de mon co-débatteur, mon collègue Moulumba. Il a dit que jusque-là, cadre de l'UDPS. Ils n'ont pas soulevé les questions la question du changement constitutionnel. Mais cependant, ils reconnaissent que les gens peuvent réfléchir par rapport à la révision constitutionnelle. Et c'est là où moi j'anticipe. Du point de vue de la Constitution, on ne peut pas parler en ce net moment de la révision constitutionnelle parce que lorsque vous lisez l'article 219 de la Constitution, La disposition vous dit aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état de siège et que sais-je. Et vous allez comprendre avec moi, nous sommes pendant l'état de siège. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont en état de siège. Nous sommes en état de guerre, bien qu'aucune autorité compétente n'a encore constaté par un document officiel, mais au moins les faits nous donnent raison parce qu'il y a deux provinces qui sont occupées. Est-ce que M. Guy Maté, on peut soulever la question de la révision constitutionnelle en ce moment? Qui va approuver ces textes-là? Parce qu'on doit consulter la population. Pendant qu'il y a au Nord Kivu, c'est occupé. Le Nord Kivu, c'est occupé. Vous allez aussi à Ituri, c'est occupé. Parce que l'Ouganda, moi, j'ai toujours été contre les pouvoirs en place lorsqu'ils essaient d'extirper l'Ouganda. Il y a certains territoires dans la province de l'Ituri où nous n'avons pas le contrôle. C'est la monnaie ougandaise qui est en circulation. C'est les langues de l'Ouganda qui sont usitées là-bas. Et que donc, vous allez comprendre, en réalité, il y a trois provinces qui sont sous occupation. Est-ce que, lorsqu'on aime son pays, on peut avoir l'idée de relever la proposition ou la question, soulever la question de révision constitutionnelle? Donc, vous allez comprendre que ça soit du point de vue constitutionnel, c'est pas possible, parce que l'article 219 les prohibe, et du point de vue social, je voulais dire, et même politique, je viens de vous peindre un tableau sombre, comme l'a fait mon prédécesseur, Moulumba. Vous allez comprendre que c'est pas à l'ordre du jour, et ce n'est même pas à inscrire parmi les priorités.
Merci, Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Quelles sont les priorités qui devraient être inscrites au calendrier de cette session qui s'est ouverte ce lundi?
Merci beaucoup, cher Guy. Mais je pense que cette session, contrairement à ce que j'ai entendu, notamment du député Moulumba, ce sera pas une session normale. Ça doit pas être une session normale. Ça doit pas être une session ordinaire. Je pense que ça doit être une session des clarifications politiques. Je pense que oui, les élites politiques doivent, et surtout les députés nationaux doivent profiter de cette session pour apporter des clarifications à des niveaux, des clarifications sur la guerre et la stratégie des sorties des crises, parce que ils ont aujourd'hui une opportunité enfin de récupérer un peu le débat, parce que le gouvernement est venu déposer le projet de ratification des accords de Washington. Donc il y a là l'occasion d'apporter des clarifications. Comment se fait-il que on ait signé des accords à Washington avec les Rwandais et que les troupes rwandaises soient toujours là et qu'on continue à se battre dans les Nord Kivu ou les Sud Kivu? Qu'est-ce qui se passe à Doha, parce qu'on n'en parle plus, les discussions directes entre que les M23 et les gouvernements sont dans l'impasse. Donc c'est vraiment un moment, cette session de mars doit être aussi ces moments de clarification. Des accords se sont multipliés, des espaces de discussion se sont multipliés. On connaît plusieurs processus qui sont en cours. Il y a l'IDOA, il y a un processus au niveau de l'Union africaine, mais sur les terrains, les combats continuent. Donc les députés, aujourd'hui, ils ont l'occasion, avec ces débats qui vont s'ouvrir autour des accords de Washington, la ratification du projet des accords de Washington, vraiment l'occasion de clarifier les choses. Est-ce que ils vont se contenter d'être cette chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif, ou vont ils reprendre leur pouvoir de contrôle et interroger les gouvernements sur la pertinence des stratégies de défense et des diplomaties qu'ils ont mis en place? Peut-être que pour terminer, deuxième niveau de clarification, c'est au niveau de la trajectoire démocratique du pays. Cette session sera aussi une session pour auditer et examiner les rapports des institutions d'appui à la démocratie, du CESAC, de la CNDH, mais aussi de la CENI. Et c'est là où c'est plus important, parce que la CENI avait publié depuis avril 2025 une feuille de route. J'ai malheureusement pas entendu les deux députés revenir là-dessus. Où est-ce qu'on en est de cette feuille de route de la CENI? Parce qu'en octobre, on devrait commencer l'enrôlement des électeurs dans une province pilote. Octobre 2025, rien ne s'est fait. Le mois de février, il fallait faire cet enrôlement dans 4 aires géographiques. Rien ne s'est fait. aucune communication et nos députés restent aussi silencieux. Est-ce qu'il y a un consensus tacite entre l'opposition qui est ici et la majorité en ligne pour que personne n'interroge les préparatifs des élections avec peut-être une idée derrière la tête du dialogue pour glisser ensemble?
Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus profiter de cette situation, de cette session, pour clarifier cette question de la dégradation de la situation socio-économique causée à certains points de vue par cette appréciation du plan congolais?
Oui, je pense que les députés reviennent à peine de vacances parlementaires. Nous, on a eu à Ebouteli, on a eu accès à trois rapports synthèse des vacances parlementaires du début de la législature jusqu'avant ces vacances parlementaires. Lorsqu'on on est en train de lire les différents rapports, on voit combien monsieur le député de Kindu parlait tout à l'heure, même son collègue de Lomami, de l'abandon. On voit combien les pays se trouvent dans la crise, que ce soit sociaux, du point de vue social, du point de vue économique. C'est partout, hein, on a des problèmes vraiment structurels qui se répètent un peu partout, la désarticulation des entités territoriales décentralisées avec ces problèmes de rétrocession qui n'arrivent pas, les infrastructures qui ne sont pas construites. Oui, il y a vraiment beaucoup de problèmes à adresser et peut-être que les députés ont aussi là l'occasion d'interroger, de redevenir une chambre de contrôle.
Alors, face à cette détermination constatée de la majorité au pouvoir à faire passer cette réforme constitutionnelle, à votre avis, quelle devrait être l'attitude des parlementaires qui doivent, n'est-ce pas, d'un côté tenir compte des impératifs politiques de leur famille politique, mais aussi de l'autre gérer les opinions publiques, hein, les desiderata de leurs électeurs?
Oui, souvent on entend parler du peuple. Le peuple veut, si le peuple veut changer la constitution, qui sommes-nous pour l'empêcher? Mais comment est-ce qu'on mesure la volonté du peuple? Qui parle au nom de l'opinion publique? Est-ce qu'on interroge, comment est-ce qu'on s'octroie ces pouvoirs de parler au nom du peuple? Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir là-dessus. J'ai suivi le président Bojie aujourd'hui lorsqu'il a parlé du dialogue politique, parce qu'on va entrer peut-être dans une phase délicate des réformes institutionnelles. Il ne s'est pas vraiment avancé là-dessus. Il s'est beaucoup plus aligné, hein, sur les dialogues formant président de la République, les dialogues qui doivent se passer sur les territoires nationaux, suivant les conditions du chef de l'État, pas avec des traîtres, voilà. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut avancer sur les terrains de la réforme constitutionnelle, il faut remettre les choses dans leur contexte. La constitution d'aujourd'hui, la constitution de 2006, a été quand même approuvée par une large partie de la population congolaise à l'issue d'un processus avec un consensus, hein, de Sun City à l'époque. Il faudrait quand même qu'on retrouve un minimum de consensus si on veut rentrer dans un chantier des réformes institutionnelles de ces niveaux-là. Et le député Hassani l'a rappelé tout à l'heure, les conditions actuelles, les conditions sécuritaires actuelles avec une grande partie du territoire national quand même, le Nord Kivu et le Sud Kivu, en tout cas les deux villes, les deux capitales sont occupées aujourd'hui par les troupes du M23 et les troupes rwandaises. C'est quand même pas le moment indiqué d'engager ces types de débats.
Voilà, Stoïc Ngurumbura, depuis la ville de Beni au Nord Kivu, il dit ceci: la plus grande crise aujourd'hui, c'est la paix des agents. Que les parlementaires prennent cette question au sérieux, de peur qu'il n'y ait pas des arriérés qui briseront les liens entre les dirigeants et les dirigés pendant cette période de guerre où la cohésion est indispensable.
Oui, je suis d'accord avec lui, hein. Je ne peux pas contredire cette affirmation. Donc, on sent de plus en plus des députés et des fonctionnaires râler parce que la paye des fonctionnaires arrive très en retard ou peut-être pas dans certains milieux. Donc, aujourd'hui, les députés, malheureusement, il y a toujours cette histoire de la loi de la majorité. On a un gouvernement dont est issu la majorité des députés nationaux. Donc, est-ce que les députés de la majorité aujourd'hui auront le courage d'interroger le gouvernement sur la gestion des finances publiques? Pourquoi est-ce que on n'arrive pas à payer? On a parlé des déficits budgétaires qui vont continuer à s'écraser. Le président de l'Assemblée nationale a demandé à ce que le gouvernement puisse prioriser certaines dépenses, notamment les dépenses liées à la paie des fonctionnaires. Maintenant, on va voir si les députés seront en mesure de suivre cet engagement pour pouvoir payer, pour que le gouvernement puisse payer complètement les fonctionnaires.
Merci. Nous donnons l'occasion aux auditeurs de pouvoir exprimer leur point de vue par rapport à cette thématique. Augustin Moulumba, honorable, vous allez réagir aux réflexions, n'est-ce pas, de l'honorable Émile Hassani et des Trésor Kibangula, mais aussi à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville d'Uvira au sud Kivu, Amani Kasali.
Amani Kasali Placide, et puis la ville d'Uvira dans la province du sud Kivu. Étant donné que les questions relatives à la révision de la Constitution ou son changement sont déjà répondues par la Constitution elle-même, stipulant qu'aucune révision de la Constitution ne peut avoir lieu pendant l'état de siège ou l'état de guerre, on devait surseoir ce débat et s'occuper d'abord de la situation sécuritaire pour en faire revenir au débat sur la révision de la Constitution. Nous ne sentons pas de la part de nos députés une quelconque pression exercée sur l'exécutif par rapport à la question sécuritaire. Depuis la prise de Bounagana, le ministre qui gère la défense n'a jamais été inquiété par les députés au courant de cette session. Nous attendons de nos députés des vraies actions parlementaires pouvant définitivement permettre à l'exécutif de s'occuper avec dévouement de la sécurité du pays.
Oui, honorable Augustin Moulumba.
Oui, Monsieur Kimate, merci beaucoup, j'ai suivi. Je crois qu'il est impérieux de retracer quand même quelques lignes par rapport à notre collègue Hassani. Juste de surcroît, mais qui est en train de parler des choses graves. Lorsque Matata Mponyi était à l'extérieur du pays, je crois, il était au Gabon, lui-même était en train de plébisciter pour qu'il vienne répondre à la justice. Laquelle justice lui-même s'est échappé. Avant de prononcer, il s'est échappé. Nous avons suivi Matata Mponyi des propos très graves, qui ne sont pas de quelqu'un, qui ne peut pas sortir de quelqu'un qui a géré la République. Il dit que la Cour constitutionnelle était composée, il a été géré par les Kassaïens. Alors, connaissant que la loi organique de la Cour constitutionnelle ne prévoit pas qu'une seule entité, une seule tribu gère la Cour constitutionnelle. Donc, cette question a été déjà réglée. Je crois que laissons la justice à faire son travail. Nous avons la séparation des pouvoirs et nous ne pouvons pas nous immiscer. Parlons maintenant de la collectivité.
Le député Hassani a posé la question de savoir c'est quoi les rapports entre l'individu Matata Mponyi et sa fondation.
Bon, je n'entre pas, c'est un débat juridique. Voilà. Nous savons comment les gens... Il y a en droit civil, nous avons les questions, la question oblique. Quand il y a... Donc, je ne sais pas entrer dedans. Parce qu'avant de prendre beaucoup de temps, je ne sais pas combien de minutes vous m'avez donné.
Allons
tout droit au but.
Voilà.
Oui.
Les priorités.
Je sais que Matata Mponyi devait être là pour répondre de ses actes qu'il a posés en tant que gestionnaire. C'est ça être républicain. Ne pas s'échapper, commencer à dire n'importe quoi. Je voudrais parler de la collectivité de nos provinces. Plus jamais qu'aujourd'hui, nous avons un seul président depuis l'époque belge, depuis les 32 ans de Mobutu, depuis les 18 ans de Kabila que notre collègue Hassan venait de vanter, qu'on a eu quand même des actions à impact visible. Moi, je suis en train de me plaindre pour ma province, l'honorable Hassan est en train de se plaindre pour sa province. Ce n'est pas pour autant dire que les actions du gouvernement ne sont pas visibles. Parlant de Kinshasa, si vous partez dans des avenues de ruettes, vous trouvez que nous sommes en train de construire les routes. Si vous allez dans la province de l'espace Est, de l'espace Grand Kassai, les routes sont construites. Si vous parlez des universités, les universités sont construites. Si vous parlez des écoles pour réduire les effets induits de la gratuité, les écoles sont construites. Là sont les effets positifs du gouvernement. Nonobstant cela, nous pouvons nous plaindre pour que le gouvernement fasse mieux que ce que nous attendons, parce qu'il doit répondre positivement aux besoins de notre peuple. Alors, si vous parlez maintenant du changement de la Constitution ou modification, l'honorable Hassan a parlé de l'article 219, oui, mais qui est autorisé de lever l'état de siège? C'est celui qui voit l'opportunité, c'est le chef de l'État. il peut voir qu'il y a l'opportunité face, c'est lui qui reçoit les déshydratants de toute la population. Est-ce qu'il faut lever l'état de siège pour changer ou modifier? Parce que je venais de vous dire, là, c'est un débat un peu scientifique et aussi juridique très long. La Constitution, à son article 218, prévoit les mécanismes de son de sa modification. Personne, que ce soit le chef de l'État, que ce soit l'honorable Assane, que ce soit mon frère de la société civile, ne peut interdire aux Congolais de réfléchir sur la révision s'ils voient qu'il y a des articles qui sont vraiment handicapants.
Voilà, vous avez suivi Trésor Kibangula qui estime que cette session de mars doit être une session de clarification politique à des niveaux, la guerre et puis les stratégies de sortie de la crise de l'Est.
J'ai beaucoup apprécié sa démarche. Je crois que c'est ce que je pouvais dire, je ne l'ai pas dit dans des mots un peu clairs. C'est cette session où jamais nous devons aussi clarifier les accords signés entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, la République démocratique du Congo et les États-Unis, et aussi les délais impartis aux groupes rebelles et aussi au Rwanda de rester dans notre territoire. Donc c'est cette session où jamais nous allons nous impliquer impérativement pour qu'on mette fin aux atrocités causées par l'armée rwandaise sur notre sol.
Ah, comment vous allez le faire? Parce que même l'auditeur, celui qui venait de parler, d'Uvira, au sud Kivu, Amani Kassali, dit qu'il dit ceci: nous ne sentons pas de la part de nos députés une quelconque pression exercée sur l'exécutif par rapport à la question sécuritaire. Comment vous allez procéder? Parce qu'apparemment vous ne faites pas assez de pression sur les gouvernements pour solutionner cette question de l'Est.
Non, comment nous pouvons faire pression sur une question que nous connaissons bien? Nous connaissons que nous sommes assiégés par l'armée rwandaise. Le chef de l'État s'est bâti comme un vrai diplomate pour arracher certains accords qui mettront fin à cette guerre. La guerre n'a pas commencé avec le régime Tshisekedi, la guerre a commencé, ça fait plus longtemps. Nous comptons déjà 16 millions, au-delà de 16 millions de morts. Nous faisons cette pression, les chefs de l'État et même sur qui les vivent, pour que la paix revienne à l'Est, pour que l'intégrité territoriale soit respectée et pour que la gestion de nos provinces soit entre les mains du gouvernement régulier. Donc nous sommes en train d'exercer cette pression de manière diplomatique et de manière aussi parlementaire, pour qu'il soit clarifié les accords signés entre tous les gouvernements, entre le gouvernement du Rwanda, le gouvernement de la RDC, ça a été déjà déposé. Il faut nous attendre au pied du mur pour voir ce que les députés ou la représentation nationale vont présenter au peuple congolais.
Merci. Merci, honorable Émile Assani. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis la ville de Beni au nord Kivu, Fabrice Sambili.
Maître Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni au nord Kivu. Je pense que la première mission des députés nationaux et des sénateurs devrait être de renforcer les contrôles parlementaires sur l'action du gouvernement dans la gestion de la guerre à l'Est, surtout qu'il s'agit d'une session essentiellement axée sur les contrôles parlementaires. Les députés devraient évaluer comment sont utilisés les moyens de défense et quelle stratégie diplomatique est réellement mise en œuvre et quelles solutions concrètes pour protéger les populations civiles. Ensuite, il y a la question sociale, parce que les Congolais attendent des réponses sur la vie chère, le chômage des jeunes, la situation des fonctionnaires et même celle des militaires au front. Voilà, selon moi, les vraies urgences nationales. Et je pense également qu'il est légitime de s'interroger sur la proximité des élus avec leurs électeurs, parce que beaucoup de députés n'ont presque pas été visibles dans leurs circonscriptions électorales pendant les vacances parlementaires, comme c'est de Beni où je suis. Or, le rôle d'un élu est d'être à l'écoute du peuple pour, n'est-ce pas, ramener ses préoccupations au Parlement en termes des rapports des vacances parlementaires.
Émile Assani.
Oui, je crois que notre concitoyen a totalement raison. La priorité devrait être pour nous les contrôles parlementaires, notamment sur la question des moyens alloués à la défense de l'État. Au Parlement, nous sommes, c'est ce que M. Kadima nous a donné, l'opposition réunie ensemble pour la République et LGD, nous sommes moins de 30.
C'est ce que M. Kadima vous a donné ou c'est le peuple qui vous a donné cela?
C'est
la volonté de Kadima ou c'est la volonté du peuple?
C'était la volonté de M. Kadima, les élections qui se sont étalées 7 jours durant. C'est la première à travers l'histoire du monde de suivre les élections échelonnées pendant 7 jours. Nous sommes à moins de 30 députés sur 500. Ce qui fait que nous subissons la loi de la majorité. Pas d'une bonne manière, mais de très mauvaise manière. Lorsque vous parlez, ils vous disent « Non, écoutez, c'est notre pouvoir ». Je peux vous donner...
Mais la majorité ne vous empêche pas d'initier certaines actions, n'est-ce pas?
Mais nous initions les actions. À l'Assemblée nationale, au Parlement, c'est la politique. Il faut que lorsque vous initiez votre initiative parlementaire, que ça soit aligné, que ça soit débattu. Vous pouvez en faire autant, mais lorsque le bureau ne veut pas aligner, qu'allez-vous faire? Et c'est là, justement, là où nous attendons le président Aimé Bogi. Espérons que, parce que c'est sa première session en tant que président de l'Assemblée nationale, espérons qu'il va rompre avec les habitudes du passé et qu'il va nous apporter un nouveau leadership. Un nouveau leadership qui veut que les parlements, en l'espèce l'Assemblée nationale, jouent et exactement ses prérogatives, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement. On a suivi, le président de la République a dénoncé les détournements des fonds alloués à la défense. Mais est-ce qu'on a établi les responsabilités? Il y a un qui en parlait ici, je crois, parmi mes collègues.
Est-ce que vous avez interpellé les ministres de ce secteur-là?
Oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Cette session, j'étais en train d'enchérir l'intervention de notre concitoyen pour dire que effectivement la priorité, parmi les priorités, c'est effectivement les contrôles parlementaires. Qui dit contrôle parlementaire, c'est exactement contrôler, par exemple, dans le secteur de la défense, interpeller les ministres de la Défense pour savoir les fonds alloués, est-ce que c'est arrivé à la destination, est-ce que ça a acheté les matériels adéquats, ainsi de suite. Mais c'est là où je vous dis, nous sommes heurtés à un obstacle. L'obstacle ici, c'est qu'ils vous disent c'est leur majorité. Vous pouvez initier, mais ils vous disent c'est leur majorité. Mais n'empêche, nous allons les faire davantage. Donc, pendant cette session, parmi les priorités, j'ai convenu avec les autres. Parmi les priorités, c'est aussi les contrôles parlementaires. On doit contrôler systématiquement. Et c'est une occasion aussi d'interpeller les bureaux, que les bureaux alignent les initiatives parlementaires, que l'Assemblée nationale contrôle effectivement ainsi bien le gouvernement que les services publics.
Et pourquoi vous imposez le huis clos lorsque vous interpellez certains ministres ? Notamment ceux de la défense.
Bon, ça, il faut quand même... C'est pas parce qu'on est de
l'opposition
qu'on doit tout critiquer. Il y a certaines questions qui sont sensibles. Lorsqu'on parle de la question de la défense, on ne peut pas étaler ça en public, voyez-vous, de peur que certaines stratégies nationales soient communiquées aux adversaires. Ça, c'est tout à fait normal que les huis clos soient décrétés pour des questions d'une autre sensibilité. Donc ça, l'honnêteté scientifique l'oblige. Lorsqu'on décrète les huis clos pour certaines questions d'une haute sensibilité, il en va de soi.
Vous ne pensez pas que l'opacité que vous tournez autour de cette question-là, cette opacité-là qui peut aussi être à la base des fiascos que nous connaissons, n'est-ce pas, dans la partie est du pays?
Non, parlant d'opacité, je ne sais pas, qu'entendez-vous de l'opacité? Ça veut dire que le Parlement est en connivence avec certains membres du gouvernement qui détournent notamment...
Il y en a qui pensent que le huis clos, là, c'est pour que les choses ne puissent pas être connues, en fait, qu'il n'y ait pas de transparence, n'est-ce pas, par rapport à ce genre de questions.
Non, je crois avoir dit, la logique veut que pour certaines questions, d'une certaine sensibilité, je peux donner l'exemple. Par exemple, on a alloué les budgets pour acheter autant de drones. Mais on n'a pas acheté ces drones, ou soit on a acheté ces drones-là pas d'une certaine qualité, ou un certain type d'armement. Mais ça, on ne peut pas étaler ça en public. Pour que les ministres de défense commencent à vous dire non, on a acheté tel armement, on a acheté telle munition. Non, là c'est le secret défense, on ne peut pas étaler ça en public et il va de soi que les huis clos soient décrétés.
Et cette stratégie produit quel résultat sur le terrain? Cette stratégie-là. Ça produit quels résultats sur le terrain? Parce que les choses ne changent pas en dépit de la stratégie d'imposer le huis clos.
J'aurais voulu que le ministre de la Défense soit en face de vous.
Voilà.
En tout cas, il est mieux placé. Peut-être l'honorable Moulumba pourra vous répondre sur cette question avec beaucoup d'éléments ou avec
Merci.
Maestria.
Merci. Kazok Bangoura, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, Junior Bompongo.
Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. La session de mars devrait d'abord remettre la sécurité nationale au cœur de l'agenda parlementaire, d'autant plus qu'une réforme institutionnelle n'a de sens sans l'intégrité du territoire national. Le Parlement devra exercer un contrôle rigoureux de l'exécutif sur la gestion de la guerre à l'Est, l'usage des ressources publiques et l'efficacité de la stratégie diplomatique. Toutefois, je crois que l'examen des accords internationaux doit se faire avec lucidité stratégique afin de préserver la souveraineté et les intérêts vitaux de notre pays. Les urgences socio-économiques, comme par exemple l'inflation, la paie des agents et fonctionnaires de l'État, les infrastructures de base, services publics, doivent également être traitées pour maintenir la cohésion nationale. Je crois que la priorité du Parlement est donc claire, contrôler, protéger et orienter l'État dans l'intérêt national. Merci.
Trésor Kibangula.
Oui, je partage l'avis et le commentaire de l'auditeur. Hein. Je pense que cette session met en réalité les députés nationaux face à une responsabilité. Donc c'est peut-être un tournant si ils essayent vraiment de saisir cette opportunité pour quitter la posture d'une chambre de résonance et devenir une chambre de contrôle pour interroger la stratégie des défenses. Je peux concéder qu'on puisse taire ou décréter d'accord. des huis clos parce qu'on parle de l'armement, mais je pense que un débat qui concerne la stratégie de défense, comment est-ce qu'on a pu déployer autant de militaires par exemple à Goma, des mercenaires, du Wazalendo, il y avait même le samedi RC, et cette stratégie de défense pour protéger Goma a échoué. Est-ce que le député pourrait, parce qu'on a vu, hein, il y a eu des auditions des officiers pour justifier ou pour qu'ils s'expliquent face à cette chute de Goma. Beaucoup sont arrêtés aujourd'hui. Je pense que c'est de l'apanage, c'est du rôle aussi de nos élus d'interroger l'exécutif par rapport à cette stratégie de défense qui n'a pas fonctionné. Parce que on n'a pas interrogé le gouvernement là-dessus. Peut-être la même stratégie s'est poursuivie à Bukavu, peut-être à Uvira, peut-être demain à Kisangani. Il faut peut-être à un moment donné s'arrêter et interroger le gouvernement sur ce qu'il essaie de mettre en place. C'est quoi les plans de la suite? On a signé les accords. Est-ce qu'on continue à discuter avec les M23 à Doha, ou est-ce que c'est pousser la communauté internationale à mettre la pression sur les Rwanda, parce qu'il y a des troupes rwandaises sur notre territoire et ce n'est pas normal, il faut que les Rwandais se retirent. Qu'est-ce qu'on fait du M23? Est-ce qu'on attend qu'ils s'affaiblissent pour reprendre les territoires occupés? C'est quoi les plans? Donc les députés ont là une opportunité de discuter, d'interroger au nom du peuple l'exécutif sur sa stratégie de sortie des crises.
Merci Augustin Moulumba, nous tendons vers la fin de la mission, vous allez conclure. Hein. Comment vous entrevoyez justement les déroulements de cette session de mars qui pourrait faire face à plusieurs préoccupations que nous avons soulevées ici, hein. Il y a les contrôles parlementaires, il y a la guerre de l'Est, il y a le banditisme urbain, il y a les questions socio-économiques dans un contexte, n'est-ce pas, marqué par cette guerre dans les proches Moyen-Orient qui opposent les États-Unis, Israël contre l'Iran. Comment vous entrevoyez le déroulement de cette session dans ces contextes-là?
Merci. Je voudrais que cette session soit essentiellement tablée sur les contrôles parlementaires, parce que la vie de notre population y est attachée. Que cette session soit aussi une mesure conservatrice pour résoudre le problème de la guerre de l'Est. Vous savez, dès lors que nos deux entités, nos deux provinces ont amputé le territoire national et que notre population est en train d'être maltraitée midi, matin, soir, en tant que compatriote, patriote, né du sang, je vous dis qu'il y a des gens qui ne dorment pas comme le président de la République lui-même. Je voudrais que nous apportions notre pierre à l'édifice en tant que parlementaire, qu'on contribue significativement à tous les accords que le président ou le gouvernement signé avec les partenaires bilatéraux. Ceci voudrait dire que nous voudrions, nous, en tant que parlementaires, apporter la clarification à notre peuple. Pourquoi la guerre? Pourquoi elle a perduré? Pourquoi les sociales? Pourquoi, à quand, pour résoudre ça? Ça vient de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes nous-mêmes autorités budgétaires. Nous profiterons de cette occasion pour mettre en garde le Rwanda, comme on peut le dire ainsi, et certains traîtres qui sont au sein de l'armée, certains traîtres aussi qui sont au sein de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, et les gens s'établent beaucoup sur la question du changement, des modifications, pour distraire notre peuple, alors que nos deux entités, nos deux provinces sont sous la prise de l'armée rwandaise, sont en train d'exploiter, en train de chasser la population, en train de tuer. Vous avez vu, plus tard qu'avant-hier, il y a des drones rwandais qui sont tombés sur Goma, qui ont tué. Ils ont commencé à dire que c'est la population, c'est l'armée rwandaise, c'est l'armée congolaise. Donc cette session sera plus essentiellement tablée sur le contrôle parlementaire, la clarification de certains accords que le président ou le gouvernement signé avec les partenaires multilatéraux ou bilatéraux.
Merci, honorable Hassani, Emile Hassani. Votre conclusion?
Merci beaucoup. J'en conviens avec l'honorable Moulumba. En tout cas, une fois de plus, félicitations, c'est quelqu'un d'honnête. Il dit que la question de la révision, au changement de la conscience, c'est une distraction en ce net moment. Bon, j'ai peur hein, pour lui parce que dans sa famille politique, ils ne sont pas tolérants. Est-ce que demain ou après-demain, il ne sera pas convoqué à l'UDPS ou à l'Union Sacrée? Je crois qu'ils seront tolérants. Donc, j'étais en train de dire que cette session, nous voulons qu'elle soit une session où les parlements, l'Assemblée nationale, va véritablement exercer ses prérogatives, notamment par un contrôle systématique, établir des responsabilités, on parle de la guerre, savoir les fonds alloués à la défense, est-ce qu'ils ont été dépensés de façon rationnelle, interroger les membres du gouvernement, des entreprises publiques, et contribuer à la réflexion qui tend à contribuer à la résolution de cette guerre de façon pacifique, pourquoi pas.
Merci. Trésor Kibangula, votre mot de la fin.
Je partage plusieurs avis, propos que j'ai entendus ici de député Hassani, même du député Moulumba, et c'est pas du tout pour l'instant le moment de se lancer dans un processus des réformes constitutionnelles lorsque le pays est en danger, lorsque les troupes rwandaises sont encore sur les sols congolais. Il y a d'autres priorités, et si on veut vraiment des élections dans les délais, il faut commencer à regarder les préparatifs dès maintenant.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Honorable Augustin Moulumba, honorable Émile Hassani et Monsieur Trésor Kibangula. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi, David Mugisa qui l'ont réalisé, à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique, et aussi à Alain Ngoï qui a assuré les lives de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Kati.